Chapitre 3. April. Elle avait passé le printemps à fouiller la Dark Zone en suivant les indices qu'elle avait rassemblés pendant l'hiver. Au cours des dernières semaines, elle s'était totalement familiarisée avec chaque mètre de la barrière qui séparait le périmètre du reste de la ville. Elle en connaissait les moindres failles. Elle savait quel bâtiment possédait des souterrains qui permettaient d'y entrer et d'en sortir. Aucun de ces tunnels et de ces brèches ne restait ouvert très longtemps. Soit la JTF les condamnait, soit des criminels s'en emparaient, ce qui les rendait trop dangereux. Mais pour chaque passage qui disparaissait, un autre s'ouvrait aussitôt. Préserver l'imperméabilité d'un secteur de la taille de la Dark Zone était tout simplement impossible. Le problème, c'était que l'endroit où elle devait aller se situait au pire endroit de la DZ, juste en dessous de Central Park. Il était plus facile de se déplacer dans le sud de la zone. Cela restait dangereux, mais c'était près de cette extrémité que se trouvait la base principale de la JTF. Dans les mois qui avaient suivi l'épidémie à New York, cette organisation et la division avaient commencé à ramener un semblant d'ordre à partir du sud de la 34e rue. Mais le nord restait à pacifier. Là-haut, les agents se faisaient plus rares, et la présence de la JTF se limitait à quelques refuges fortifiés disséminés aux abords de Central Park et dans les quartiers avoisinants. April avait appris à évaluer la dangerosité d'un secteur en fonction de la fréquence à laquelle elle y apercevait le barda caractéristique des agents de la SHD. Un sac à dos orné d'un cercle orange et des accessoires optiques et audio. Leur autonomie était absolue. Ils allaient où ils voulaient, et n'avait pour toute règle de conduite que d'empêcher la civilisation de s'effondrer. Plus elle en voyait, plus elle savait que l'endroit où elle se trouvait était dangereux. Les quartiers où ils se déplaçaient en groupe étaient les plus périlleux de tous. Le secteur nord de la Dark Zone était de cela. Alors elle observait, gardait son sang-froid et saisissait les opportunités qui se présentaient. Elle n'y entrait que deux jours, et sans s'éloigner des groupes en qui elle avait confiance, quitte à s'éclipser dès que ça tournait mal. Parfois, il était tout simplement impossible d'y pénétrer. Des agents de la division ou des patrouilles de la JTF la forçaient à faire demi-tour, ou alors il y avait des fusillades, ou bien des incendies. Des quartiers entiers n'étaient plus que des coquilles noircies, la faute aux sectes apocalyptiques qui pullulaient depuis l'épidémie. Même quand elle parvenait à entrer et à trouver le moyen d'approcher du bâtiment qu'elle avait pour cible, elle s'attirait des ennuis. Le plus souvent, elle parvenait à s'en tirer sans heurts. Mais des agents de la division avaient dû la sauver à trois ou quatre reprises. En deux occasions, elle avait été obligée d'ouvrir le feu. Et même si elle savait qu'elle n'aurait pu faire autrement, ses morts lui pesaient sur la conscience. Elle ne voulait pas vivre dans un monde où l'on prendrait une vie rien qu'en allant se promener. Mais c'était à ça que le monde ressemblait à présent. Ou tout du moins, New York. Le pire était derrière eux, bien sûr, mais il faudrait du temps avant que les choses ne reviennent à la normale. Et à quoi pourrait bien ressembler la normale désormais, avec ces millions de morts, la disparition du gouvernement, la coupure des communications, les grandes villes désertes et les exploitations en jachère? Elle l'ignorait. À la longue, la normale, ça devient juste la situation dans laquelle on se réveille. Il fallait s'adapter. Alors c'était ce qu'elle avait fait. En partie, à cause de l'épidémie et de ses conséquences, qui lui avaient montré qu'elle était plus tenace qu'elle ne le croyait. 6 mois auparavant, assise devant son ordinateur portable, elle n'aurait jamais imaginé gravir une barricade pour pénétrer dans un enfer sous quarantaine. Mais elle avait une mission, ou plutôt une obsession, qui s'était gravée en elle à mesure qu'elle survivait à la pandémie et au chaos meurtrier qui avait suivi. C'était cette même obsession qui lui avait permis de tenir lors des nuits glaciales et des jours de famine, qui l'avait aidé à rester concentré et lui avait donné une raison de vivre. Son meilleur indice était une adresse. 177 Ouest, 58e rue. Et ce jour-là, elle y était enfin arrivée. en partie car elle était parvenue à se faire escorter par un agent de la division. Elle l'avait repéré sur un toit, au coin de Central Park, et avait choisi son point d'entrée en espérant qu'il viendrait à sa rencontre ou qu'il la suivrait. Ce qu'il avait fait, lui permettant de se focaliser sur sa progression et d'avancer plus vite. Elle le remercia mentalement et se demanda comment il s'appelait. La devanture du 177 Ouest 58e rue était ouverte, comme si la boutique était en construction lorsque le microbe du dollar avait frappé. L'intérieur, mis à sac, donnait l'impression d'avoir été un magasin de vélo. April entra, en s'efforçant de garder son calme. Enfin. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, elle tendit l'oreille un moment. On pouvait discerner une présence humaine de bien des manières, pas seulement au son, qu'il s'agisse d'une inspiration rapide ou du grincement qui survenait parfois lors d'un changement de position. Il était possible de ressentir une présence d'une manière qui transcendait la conscience. Quand un bâtiment était vide, on le sentait, tout simplement. Elle avait fini par apprendre à faire la différence. Devant elle, à l'arrière du magasin, se trouvait un escalier qui menait à l'étage. Plus loin encore, une porte coupe-feu ouverte et bloquée donnait sur un couloir qui disparaissait dans les entrailles de l'immeuble. À droite, un autre corridor, plus petit, menait vers une porte entr'ouverte. Elle alluma sa lampe torche et vit dans l'entrebâillement un escalier qui menait en sous-sol. 117 Ouest, 58e rue, au sous-sol. Elle descendit lentement, en prêtant attention au moindre son, mais elle n'entendait que le léger frottement de ses semelles sur les bandes antidérapantes des marches. En bas, il n'y avait toujours aucun bruit. Le sous-sol consistait en un labyrinthe d'allées étroites qui donnait sur des chaufferies, des cagibis, des panneaux électriques. Bref, le cœur battant et le système nerveux des tours d'habitation modernes. Elle jetait un rapide coup d'œil dans chaque pièce avant d'avancer. Enfin, elle parvint à une salle plus grande et s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Une grande baie de serveur, sombre et inerte, occupait le coin le plus proche. Ça et là, sur le sol, étaient étalés des sacs de couchage et des cartons repliés, ainsi que des emballages alimentaires et des cigarettes en vrac. Ces dernières retinrent son attention. Elle s'arrachait à prix d'or à présent, et si elle se trouvait encore là, cela signifiait que personne n'était venu depuis bien longtemps. Ce qui voulait dire... Elle stoppa net sa réflexion et reprit son inspection minutieuse de la pièce, malgré les battements frénétiques de son cœur. Au milieu trônait une table pliante sur laquelle reposait une carte de Manhattan et plusieurs bouts de papier couverts de notes manuscrites. Sur un tableau blanc accroché au mur du fond, quelqu'un avait écrit une liste de noms, chacun associé à une latitude et une longitude. Un des noms était le sien. C'était le bon endroit. Du moins, ça avait été le bon endroit. L'homme qu'elle cherchait était parti. Depuis longtemps, à en juger par l'odeur de la pièce et l'air vicié. Il n'y avait aucun signe de lutte. Pas de sang au sol, ni d'impact de balles sur les murs, ou de douille pour teinter à chacun de ses pas. S'il n'était pas là, il ne devait pas être loin pourtant. Car pourquoi envoyer une invitation si c'était pour être absent le moment venu ? April, j'ai dû disparaître. Retrouvez-moi au 117 Ouest, 58e rue, au sous-sol. Et c'était ce qu'elle avait fait. À présent, elle se trouvait face à une nouvelle énigme. Bon, se dit-elle, d'abord le plus évident. Elle remonta lentement vers l'entrée, en prêtant attention au moindre signe de mouvement, puis s'y arrêta de nouveau. Le bâtiment, du moins cette partie, semblait vide. Elle avança à travers les restes de l'espace de vente qui occupait autrefois la pièce. Une porte coupe-feu, hors service, s'ouvrait sur un couloir moqueté, empestant le moisi et l'urine, au bout duquel se trouvait une autre porte anti-incendie. Elle revint sur ses pas et regarda l'escalier. Avant de s'y engager, Elle fit glisser son fusil à pompe de son épaule et le pointa devant elle, à hauteur de ventre. Toujours aucun bruit, ni le sentiment d'être observée. Elle monta au premier étage et jeta un œil depuis la cage d'escalier, l'oreille tendue pour saisir le signe d'une présence. Rien. Pourtant, il était forcément là quelque part. Elle monta encore d'un étage. Arrivée au deuxième, elle sut que quelqu'un y vivait. Certaines portes étaient ouvertes, et le doux vrombissement d'un équipement électrique s'échappait d'une pièce desservie par le couloir de gauche. L'alimentation ne pouvait venir de l'immeuble. Elle en avait vu les panneaux électriques complètement brûlés. Celui ou celle qui séjournait ici avait donc accès à une source clandestine, ce qui signifiait que cette personne avait des relations. La question c'était avec qui? L'absence de garde laissait penser qu'il ne s'agissait pas d'un gang. Ce genre de criminels adorait faire étalage de leur puissance. Alors, un agent de la division peut-être? Caché au fond de la Dark Zone? C'était compatible avec ce qu'elle savait, mais cela soulevait d'autres questions. Elle progressa jusqu'à la porte, puis s'arrêta net. Il avait fallu des mois de recherche pour en arriver là. Si elle se trompait, ce n'était pas le cas. Elle le savait. Elle avança dans l'embrasure, le Super 90 calé contre sa hanche. Il s'agissait d'un ancien cabinet médical. Du matériel de diagnostic était aligné contre un mur, en face duquel se trouvaient deux bureaux près d'une fenêtre orientée plein sud. Les grands rayons du soleil de printemps se frayaient un chemin entre les gratte-ciel pour terminer leur course à l'intérieur. Le mur entre l'équipement spécialisé et les fenêtres était couvert d'étagères, et parmi la myriade de livres d'épidémiologie, de biologie cellulaire et de génétique virale qu'elle soutenait, un tome en particulier l'interpella. New York Collapse. Elle avait perdu son exemplaire, celui que Bill lui avait donné. Elle s'en était servie pour survivre et avait tenu dans la marge un journal des semaines qui avaient suivi l'épidémie. En le lisant plusieurs fois, elle avait remarqué des indices cachés qui avaient fini par la mener ici, jusqu'à cet homme assis à l'un des bureaux. Âgé d'environ 60 ans, il avait les cheveux poivre et sel et des lunettes de lecture au bout du nez. Il griffonnait sur un carnet, ne s'arrêtant que pour regarder l'écran d'ordinateur en face de lui. Toujours dans l'embrasure, elle l'interpella. « Roger Koopman ?» Il leva les yeux et la regarda, non sans avoir d'abord fixé son fusil.
« Vous ne trouverez aucun objet de valeur ici, » répondit-il.
« Peut-être dois-je plutôt vous appeler Warren Merchant ?»
demanda-t-elle. Il la regarda plus attentivement, et une expression étrange se peignit sur son visage, comme si, découvrant quelqu'un qu'il n'aurait jamais pensé rencontrer, il ignorait comment réagir.
« Je suis April Keller, » reprit-elle. « Ça fait un moment que je vous cherche. »